carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Pierre Cardin, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir au Château de Lacoste, où Canal Académie a pu assister hier au vernissage de l'exposition Sculpture en mouvement, une exposition avec cinq magnifiques sculptures tout à fait contemporaines, des plus grands noms, Soto, Schoeffer, Ikili, Cruz Diez, sont ici représentés, et également le sculpteur Agam. Comment vous est venue cette envie d'exposer des œuvres de l'art cinétique, un art avec lequel vous avez probablement été en accord, vu vos créations dans la mode, dans les années 60 et 50?
C'est-à-dire qu'arrivant de Vichy après la guerre, tout de suite j'ai participé à des mouvements culturels, et la première exposition qui m'a vraiment fasciné, qui était tout à fait révolutionnaire et nouvelle, c'est la sculpture en mouvement. Donc les noms que vous venez de prononcer, je les ai vus il y a en 1948, 47, 49, 50, où il y a eu une très très grande exposition internationale de tout l'art cinétique. Et c'était le départ du mécanisme, en réalité, du mouvement. C'est un mouvement qui m'a séduit par la diversité et la nouveauté, et j'étais très fan. Et depuis 50 ans maintenant, on a un petit peu pas oublié, mais on en a moins parlé, plus exactement du cinétisme. Et c'est pour ça que l'an dernier, j'ai pu faire, avec la collaboration de l'Institut de l'Académie des Beaux-Arts, une exposition superbe avec que des sculpteurs à ce moment-là. Cette année, j'ai voulu faire une différence avec des sculpteurs qui ne sont pas des académiciens, quoique certains l'ont été, de représenter, de mettre en actualité, en tout cas autant que possible, à ma dimension, l'art cinétique avec ces grands noms que vous venez de citer.
Oui, alors vous venez d'évoquer en fait le sculpteur Nicolas Schoeffer.
Oui, qui était à l'époque, c'était un sculpteur dont on appréciait énormément, mais qui était discuté également parce que c'est un nouveau mouvement de sculpture, c'est une nouvelle conception, la technique, la mécanique rentrait dans le jeu, et l'électricité, la lumière, tout ce qui était projection, rentrait dans son jeu. Et d'ailleurs, quand je vois actuellement le pas de géant que ce mouvement a créé, ne serait-ce que par exemple, j'arrive du Maillard du Prince de Monte Carlo, quand je vois ce merveilleux spectacle dû à travers d'ailleurs, qui aurait pu être signé Nicolas Schoeffer, car c'est tellement une telle dimension différente par rapport au temps, 50 ans ont passé quand même, mais la proportion de la technologie aujourd'hui et de la musicalité et de la lumière et du scénique et du virtuel, c'est exactement ce que Nicolas Schoeffer à l'époque avait imaginé. C'était un concert avec des tours de Nicolas Schoeffer en réalité, qui avait 30 et 40 mètres de haut, il y en avait 8 tout de même, avec des jeux scéniques, des jeux de lumière, des jeux de projection et de l'architecture en soi-même, dans ce port de Monte Carlo. C'était féerique, et avec un feu d'artifice de plus beau que je n'ai jamais vu par-dessus, en plus. Ça revenait en plus. C'est-à-dire qu'on était dans un monde complètement différent et fascinant.
Cette complémentarité des arts vous a toujours séduit? Le fait que ce soit visuel, sonore?
Oui, moi j'ai toujours été, enfin j'aurais voulu être un artiste, c'est le cas de dire, quand j'avais 16 ans, je voulais être acteur ou danseur. Il est évident que pendant la guerre, moi j'ai connu la guerre, donc c'était différent, je ne pouvais pas décider à l'époque parce qu'il y avait les occupations des Allemands à Vichy. Mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché de rêver. Et lorsque je suis arrivé à Paris, bien sûr, mon jeu était de voir les expositions pour avoir une certaine culture, parce que pendant la guerre, tout était close, enfin, tout était fermé. Il y avait la faim et le froid, en réalité, les Allemands présents en plus, ce qui n'était pas tout évident pour un jeune homme de 18 ans ou 17 ans, ce n'était pas tout l'évidence d'une vie. Mais en tout cas, je m'en suis très bien sorti, et dès que j'ai pu être libre en arrivant à Paris, là j'ai pu exploser dans mes tentations, dans mes désirs en réalité.
Sur les terrasses du Château Lacoste, votre domaine, ces magnifiques sculptures ressortent sur ces pierres anciennes. On est vraiment en contraste entre modernité et puis ces pierres. Elles sont installées en plein air, dans un endroit complètement dépouillé, il y a juste la pelouse, les pierres et le ciel, et donc toutes ces œuvres se détachent pleinement, oui, se révèlent.
C'est une essence en réalité, car c'est tellement bien exposé, et puis elles sont individuellement exposées, donc elles ne se gênent pas l'une à l'autre, quoi qu'elles vont individuellement bien ensemble. Mais malgré tout, on les a séparées, le lieu est assez magique, comme vous savez, le château du Marquis de Sade, qui a été démoli pendant la Révolution, enfin qui a été petit à petit un petit peu retapé, et moi reconstruit, il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, dont j'en ai fait ce lieu magique où on peut exposer soit en concert également, où nous avons produit des concerts, car la pierre résonne, c'est à l'état brut. Et toute la reconstruction a été récupérée parmi les pierres qui avaient été démolies. Et là, le concert avec Tinguely et bien d'autres, les sculptures de tous ces deux crues de Tinguely, de Soto, se sentent très bien parce qu'elles sont séparées en réalité. Elles sont dans une atmosphère, mais entre le modernisme de la matière, de la couleur, de la forme et de la musicalité et de la projection plus. Si vous voulez, ils sont indépendants dans chaque pièce d'une, la pierre du passé, qui est brute, qui est naturelle. Il y a un rapport de civilisation, en réalité, par les matières.
votre œil a découvert ces œuvres quand vous êtes arrivé, quand elles ont été installées, je veux dire.
Alors,
je
n'ai pas eu la surprise totale, mais tout de même, quand je suis rentré dans Soto, je dois dire, dans ce labyrinthe du... où l'on passe dans la vie, on traverse un immense désert bleu, ce qui est merveilleux, on se pénètre là-dedans comme si c'était des nuages, on ne sait pas où on traverse ces centaines de milliers de fils bleus qui tombent du ciel. C'est une forêt, en somme. C'est merveilleux pour les enfants comme pour les grands.
Le pénétrable de Soto, qui est bleu, d'un bleu magique.
Bleu Soto.
Qui est un bleu Soto. C'est pas le bleu Klein, c'est bleu Soto.
Qui, effectivement, dans les éléments du vent aussi, bouge et est animé également
absolument.
Par les. Dès qu'on pénètre à l'intérieur, comme si on rentrait dans l'eau.
Oui, parce que c'est mouvant. C'est d'ailleurs le cinétisme, c'est le but du cinétisme, c'est-à-dire donner du mouvement. Et pour rentrer là-dedans, on peut heurter à une forêt inconnue. On a l'impression qu'on est dans un bois et on ne sait pas où on va. Et c'est assez émerveillant parce que tout de même, on a un sentiment de solitude et en même temps de découvrir quelque chose.
Vous êtes en accord aussi avec les sculptures de Carlos Cruz-Diez qui utilisent la couleur de façon très saturée et puis ces grandes lamelles.
Des couleurs violentes d'ailleurs, des couleurs brutes, naturelles, très fortes. Là, ce sont des isoloirs en somme. On est prisonnier dans un... C'est pas très loin de Soto non plus parce que finalement, on est pris aussi par un piège. Là, on rentre dans une douche. Ça aurait pu être une pluie d'eau de couleur, par exemple. Il aurait pu y avoir de la pluie de couleur qui tomberait sur cette douche, qui est enfermée de panneaux qui tombent et qui bougent également, qui font du bruit. Car tout ça est toujours le cinétisme, apporte le bruit, le son, la musique.
Et pour terminer, la sculpture d'Ikili qui est...
Elle est musicale également. Ikili est très, très amusant. On entend parce que c'est un mobile en réalité. C'est pas un caldaire, c'est loin du caldaire. Mais on peut y penser également. C'est d'ailleurs le même mouvement. Et ça bouge par le vent, c'est-à-dire que ce sont des cloches qui sont... Moi, je le considère comme une cloche qui serait désarticulée, qui serait cassée et qui serait rapprochée, que tous les morceaux de la cloche seraient rajoutés par une certaine facilité technique. Et on entend tous ces bruits de cloches les unes à côté des autres qui font du bruit. Et c'est très reposant en même temps.
Un art apaisant, en fait.
Un art apaisant. D'ailleurs, tout le cinétisme.
Est-ce que vous collectionnez les œuvres de l'art cinétique ?
Non, moi j'en ai pas. J'avais acheté une tour de 2 mètres de haut à l'espace Carnat d'ailleurs, et puis qui a disparu d'ailleurs. C'est ça qui a été très pénible pour moi de le constater. Nicolas Schaeffer, je l'avais exposé il y a une quarantaine d'années, 45 ans, à l'espace Carnat, où d'ailleurs beaucoup de peintres ont exposé énormément. On a eu des expositions très impressionnantes en passant du plus classique, donc si vous voulez, tous les grands classiques d'entre-deux-guerres. Puis ensuite, on a fait de l'art cinétique à l'époque. Là.
Cet art cinétique avait tant d'importance sur le monde de la mode, sur vous, il a eu aussi beaucoup d'importance. Quel héritage voyez-vous ou discernez-vous? Parce que dans l'œuvre contemporaine, dans les arts contemporains en sculpture, on voit vraiment l'héritage de ces pionniers qui ont été Soto.
Absolument, les matériaux aussi, les matériaux utilisés. Le plastique était très important dans l'art cinétique. Et n'oubliez pas qu'il y a eu une créativité énorme, même à travers tout le plastique. Dans les meubles, dans les éclairages, dans la sculpture, dans la matière. Il n'y a pas eu que le métal, il y a eu superposé les deux, métal et c'est grâce au pétrole, d'ailleurs il faut bien le reconnaître, qui ont donné des couleurs différentes qu'on n'avait pas auparavant, au prisme différent, et en même temps en légèreté, en poids et en transparence. Donc la matière du pétrole a donné une nouvelle conception architecturale, picturale, musicale, incorporée dans tous ces arts-là qui sont le moment d'aujourd'hui.
Vous voulez ajouter quelque chose sur l'exposition, M. Cardin ?
C'était une réunion de 5 grands sculpteurs du cinétisme. On a eu une très grande satisfaction qu'ils ont tous rendu... Même, ils ont tous été présents, je veux dire, ils ont tous dit tout de suite dans ce, c'était inconnu, puisqu'en fin de compte, l'an dernier, j'avais fait des sculptures de pierre et de métal, mais c'était plutôt pas classique, mais totalement différent. Et de demander ensuite aussi les titres, qui n'avaient pas été oubliés, comme vous le savez, mais on en avait moins parlé, et de le remettre à l'actualité, je crois que c'est une très bonne chose, parce que c'est du présent, ça, c'est de la réalité, on le voit. Je vous parlais tout à l'heure du Monte Carlo pour le mariage du prince. C'est évident que c'est l'art qui est le plus époustouflant. Et même avec toutes ces matières de laser, enfin ces choses qu'on peut créer actuellement, c'est ça la réalité de notre mouvement d'aujourd'hui.
Merci Pierre Cardin. Je rappelle juste que l'exposition se déroule du 2 juillet au 2 octobre, qu'elle est ouverte à tout public. Il suffit de monter au château de Lacoste, magnifique lieu où on a un point de vue sublime sur toute la région.
C'est-à-dire que la vue est exceptionnelle, elle est quand même perchée sur un campanile, si on peut dire, qui domine toute la région 360 degrés. C'est un enchantement. Il m'est trouvé un jour de me trouver absolument jusqu'au torse, pris dans le brouillard. J'étais nu, c'était 5 heures du matin, c'était le lever du soleil, et j'étais nu jusqu'au torse et j'avais l'impression d'être un ange dans le ciel. Il n'y avait aucune matière, si ce n'est que le ciel bleu et les nuages. J'étais complètement dans l'espace. C'était une sensation, une impression assez inoubliable.
Tout en haut, là-haut, sur la terrasse du château.
Tout était blanc, il y a souvent des nuages qui recouvrent toute la région. Et moi, le nuage m'arrivait là. J'étais nu, avec les bras dehors, j'étais un peu comme le Welcome que vous voyez actuellement qui est exposé avec les Russes.
Pierre Cardin, vous avez été nommé en 1991 ambassadeur de France auprès de l'UNESCO et c'est une mission qui vous tient particulièrement à cœur.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de toute cette activité qui n'est pas tellement...
Je montre que je travaille en silence d'ailleurs grâce à Federico Maiorca qui était à ce moment-là le président directeur général de l'UNESCO. J'avais comme fiction la tolérance et puis Tchernobyl auquel j'ai participé à la fermeture des centrales nucléaires. Pendant 3 ans, je me suis occupé de Tchernobyl. J'ai fait les premières photos qui ont paru dans Match, d'ailleurs, au risque de ma vie, ce que je n'aurais pas dû faire d'ailleurs, car j'ai fait des photos avec Match à 15 mètres de la centrale nucléaire, qui était malheureusement dans aucune des conséquences. Et j'ai eu ce courage de le faire, mais j'aurais pas dû le faire. Je le regrettais après, mais c'est trop tard. Je suis passé par des rayons, donc j'ai rien. D'ailleurs, ça, il y a déjà plus de 20 ans, donc par conséquent, je peux pas dire que c'est Tchernobyl pour moi. Mais j'ai en charge, donc, surtout la tolérance également, c'est-à-dire faire connaître dans le monde entier les drapeaux que j'ai moi-même demandé à des peintres de les peindre, que je promène, il y a 6 continents, dans le monde entier, je promène mes drapeaux avec des enfants, 25 enfants, que je prends dans chaque capitale de chaque pays avec une ronde, en demandant aux enfants des ambassades de venir pour faire une unité de race, de couleur, de feu. Parce qu'en réalité, il faut reconnaître que nos missions étaient, nous sommes tous égaux l'un l'autre, même si on a des physiques différents, un langage différent, une taille différente. Enfin, c'était l'égalité de tous les gens du monde à travers les enfants, bien sûr. C'était ma mission que je faisais une très grande ronde et je montais les drapeaux dans chaque capitale avec la présence, bien sûr, soit du président du pays ou parfois les ministres ou les maires, ça dépend du lieu.
Pour vous, la tolérance passe par la jeunesse ?
Ben, c'est par l'enfant, je crois que c'est l'éducation au début, vous savez, dès qu'on est enfant. Après, déjà, c'est plus difficile de détourner déjà une formation. C'est comme si vous partez du blanc, vous pouvez peindre la couleur, mais si vous partez déjà d'un blanc déjà qui est terne et sali, vous ne pouvez pas revenir au vrai blanc par-dessus. Donc il faut toujours commencer par la jeunesse et l'enfant qui fait demain.
C'est une mission qui vous a conduit à beaucoup voyager à travers le monde, en dehors de vos affaires.
En Australie, à Sydney, en Russie, en Japon, en Chine, au Brésil, en New York, je suis allé un peu partout. Mais je voyage beaucoup depuis l'âge de 20 ans, vous savez, j'ai fait le tour du monde. D'ailleurs, c'est des raisons pour lesquelles la tolérance m'allait très bien, parce que je connaissais déjà tous les États, tous les pays, donc c'était plus facile.
Quelle définition vous donneriez de cette belle notion ?
Eh bien, qu'il y a tout de même une reconnaissance, mais malheureusement, on recommence chaque année, chaque naissance apporte demain une nouvelle vie, une non-connaissance, il faut réapprendre. Donc c'est un éternel recommencement, car la connaissance, malheureusement, quand on l'a complètement, on quitte ce pays, donc c'est pas oublié par la lecture, heureusement que les livres sont là.
La transmission, c'est très important.
C'est le livre. Et maintenant, le virtuel, tout ce qui est la technologie moderne qui laissera graver pour l'éternité, je pense.
Vous êtes un grand voyageur du monde, à travers le monde. On avait évoqué dans une précédente émission vos voyages en Chine. Vous aviez là aussi été pionnier en tant qu'occidental, à un moment où la Chine était fermée, etc. Est-ce qu'on peut aborder sous le même angle à la fois la Russie d'aujourd'hui, mais qui a été l'Union soviétique, où vous avez également été
dans des conditions... 1963, mon premier voyage à Moscou et à Saint-Pétersbourg. C'était en 1963, c'était une période très difficile. D'ailleurs, une anecdote très amusante. Pour avoir mon visa, j'ai demandé à Vinogradov, qui était ambassadeur à Paris, le premier ambassadeur à Paris, s'il voulait me donner mon visa très vite. Ça me ferait plaisir parce que j'avais une mission à faire en Russie. Et il m'a dit, mais je voudrais bien que vous sachiez, Monsieur Excellence, que je ne suis pas communiste, je suis capitaliste, alors je sais qu'il y a des difficultés. Il m'a répondu textuellement, vous savez, Pierre Cardin, des communistes, on en a beaucoup dans le monde, un de plus, un de moins, ça ne changera rien. Et il m'a donné mon visa le lendemain. Voilà quel est mon premier contact avec. Et après, j'ai fait des relations pendant la période délicate russe. J'avais réussi à avoir 36 usines en Russie que j'avais fonctionné. C'est moi qui ai donné la première usine clé en main à Moscou à l'époque. Vous vous rendez compte de ce que ça représentait d'aller dans ce pays qui était fermé complètement.
C'était en quelle année, Pierre Cardin ?
Ça devait être en 66 ou 65. Et après, j'ai fait beaucoup de culturel avec les Russes, surtout sur le plan. Juno Abos, la comédie musicale, qui est une des plus belles comédies musicales que j'ai vues de ma vie, avec les plus grands acteurs, avec Chedrin comme musicien, André Bozesensky, le poète, tous ces gens-là, Maria Plesiskaya, tous ces noms qui sont devenus des amis maintenant, depuis toujours, depuis 40 ans, 50 ans. J'ai toujours gardé des relations très proches de la Russie, en tenant pas compte de la politique, en tenant compte de la relation humaine et du pays, qui est un pays très enrichissant et qui a un passé merveilleux.
Vous avez toujours été un passeur, en fait, entre ces continents.
Oui, pas dans la difficulté, dans la facilité de la difficulté.
Oui, quelles que soient les conditions, c'est quand même...
Oui, toujours en disant la vérité.
On constate que sur toute votre vie, ce sont des aventures que vous avez toujours tentées.
À travers des idéologies qui étaient fondées sur le passé, sur le moment. Je me suis dit, un jour, les choses vont s'arranger, ça ne peut pas se durer comme ça. Même la Russie, je me suis dit, un jour, ils ont une récompense. Les Russes, ils ne peuvent pas vivre dans la misère, dans le froid, dans la faim, dans l'autorité, parce que le communisme, il est beau comme pensée philosophique et psychologique. Mais ce n'est pas la réalité, c'est l'autorité en réalité, c'est la peur qui oblige les gens à obéir. Donc ils forment une grande force également si on a peur. On se protège à travers une idéologie. Mais ce n'est pas ça l'idéologie politique, diplomatique.
Vous revenez de Russie là ?
Oui, j'ai eu la chance d'aller présenter ma collection, bien sûr. Et une comédie musicale sur Casanova. Comme vous savez, je suis d'origine italienne. J'ai monté une comédie musicale qui s'appelle Casanova, La vie de Casanova.
Qu'on a pu voir au Festival de
voilà,
la Coste l'an dernier.
Voilà, exactement, c'est ça, oui.
Et que là, vous vous présentez à...
Eh bien, je représente, moi je suis vénitien d'ailleurs, et j'habite le palais de Casanova à Venise, donc je suis bien placé pour en parler. C'est vrai que je fais beaucoup de théâtre, beaucoup de comédies musicales. L'année précédente, j'ai fait Marco Polo, qui avait été présenté à Pékin également, ouais, pour l'ouverture de l'Olympia.
Qui a fait le tour du monde et qui a été aussi présenté aussi, Piazza San Marco à Venise.
Exactement, c'est ça. Oui. Non, je fais beaucoup de choses pour le théâtre. Je suis très concerné. Comme je vous l'ai dit au début, je voulais être acteur ou danseur. Bon, la chance a voulu que je rencontre des gens les plus brillants à 20 ans.
Et que Jean
Cocteau, qui m'a permis de rentrer dans l'histoire du costume. Après Dior, enfin, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de rencontrer des gens. Je crois que la rencontre est très importante quand on est jeune, on est formé, ou on admire, bien sûr, il faut être déjà disponible.
Bien sûr. Et alors en Russie, là, récemment, vous avez été pour ce spectacle, bien sûr, pour
Casanova. Au Kremlin, dans le palais du Kremlin, j'ai présenté Casanova et puis ma collection, bien sûr, qui est le moteur de mes voyages,
de
en réalité,
voyages.
Et de ma diplomatie.
Comment on accueille vos collections
Mais moi, j'ai un gros succès là-bas en Russie, oui. Comme je vous le dis, j'y vais depuis 1963. Puis j'ai beaucoup de relations amicales, respectueuses, diplomatiques. C'est un pays que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'essaie de faire rentrer en relation à la Coste ici, avec les Américains.
Alors, à la Coste, c'est un microcosme de tous les continents, justement.
Ouais.
Dans ce village, il y a effectivement une forte communauté américaine avec la présence d'une branche de Savannah College.
Une académie des arts, oui.
Et du design.
C'est ce que voudrais faire avec les Russes également, faire une rencontre. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait.
Et vous voudriez que dans ce
les Russes soient également, et les autres pays, on commence par les Russes, les Américains, et puis après les autres pays, bien sûr.
Alors que chaque place, continent, soit ici représenté.
Soit la musique, soit la peinture, la sculpture, la gravure, mais tous les arts, en somme, un village d'art.
Alors si on se promène à la Coste, on croise justement vraiment la jeunesse internationale.
Oui, c'est très international, mais il y a eu le passé également. Vous savez, il y a la Coste, et dans ses banlieues, etc.,
des villages autour de la Coste.
Il y a eu Picasso, il y a eu tous les présidents de la République française, Pompidou, Mitterrand. Enfin, il y a eu tout un ensemble d'artistes et de valeurs humaines qui ne sont plus, mais qui sont présentes malheureusement ou heureusement à leur tombeau ici. Ça a toujours été un lieu de culture, des concerts. C'est la région d'Aix-en-Provence qui est italienne d'origine, comme vous le savez, c'était romain à l'époque. C'était un sens, c'est encore une vision très toscane, enfin c'est très Aix-en-Provence, mais c'est très toscan.
Comment s'est passé le coup de foudre pour vous avec la Coste ?
Mais j'en voulais pas du tout, il pleuvait, il faisait froid, j'ai une amie qui était la propriétaire du château du Marquis de Sade, qui m'a téléphoné, venez voir, vous savez, mon mari malheureusement m'a quitté, il voudrait que ce soit, je pense à vous pour que vous achetiez cela. Et quand je suis arrivé, c'était un dimanche, il faisait froid, la pluie, j'avais mal au dos, j'étais pas très disponible à acheter une... Et j'ai refusé. Elle a été très déçue. Ensuite, après, elle m'a demandé de revenir. Je suis revenu, il y a eu une lumière comme aujourd'hui, un matin exceptionnel. Et je me suis trouvé devant une beauté de la nature. Et ce château m'a évidemment hanté avant. Mais quand j'avais vu toutes ces pierres, j'ai dit, est-ce que j'ai le courage de le reconstruire ? Et je l'ai reconstruit. Sur un coup de tête, comme ça, je l'ai acheté et construit. Et reconstruit tel qu'il est. En illusion, un peu piranèse.
Oui, c'est un
lieu magique, oui, et il y a un passé étonnant quand même. Le marquis habitait là un certain temps. Il y avait des passages assez rapides, mais il a laissé son empreinte par son écriture. C'est quand même parmi les écrivains, des plus grands écrivains que nous ayons.
Donc chaque été, dans les carrières du château,
c'était
enfin,
dans les carrières, hein, j'ai reconstruit tous les vues. Après, j'ai racheté une partie du village. Parce que les gens qui venaient à moi ne voulaient pas m'acheter. Et puis comme je trouvais le lieu assez bien, et puis que je pouvais me le permettre en tout cas. Et puis j'ai restauré, j'en ai fait un petit village sympathique maintenant, où on en parle beaucoup dans le monde, même aux États-Unis maintenant, en Amérique, partout.
Le Festival de la Coste pour sa 11e édition a une programmation.
Un grand théâtre en plein air ici, là, qui contient 1000 personnes. J'ai une distribution depuis 10 ans de 10 spectacles. J'ai déjà produit 100 spectacles en 10 ans, c'est énorme. De A à Z personnellement.
que vous, donc, dont que vous êtes
finance,
le mécène.
Absolument, oui. Que je produis soit, disons, musique, danse, théâtre, concert.
Comédie musicale.
Comédie musicale, bien sûr.
Oui, c'est assez extraordinaire. Alors là, il y aura Carmina Burana.
Carmina Burana est une chose classique, ça tout le monde connaît. Oui. Il en fallait aussi parce qu'il y a beaucoup de mélomanes ici. Et puis après, voyez, vous y avez des jeunes, il y a des gypsies parce que c'est très populaire. J'essaie de manipuler le programme d'une manière générale, en pensant à tous.
Oui, c'est une programmation éclectique.
Éclectique, absolument.
Et qui, effectivement, passe du classique à la musique...
Oui, même une Sarah Bernard, qui est une création, qui est une chose que j'ai fait plaisir à un jeune troupe, parce que j'essaie d'aider les jeunes aussi.
Toujours.
Le critique, on ne les critique pas, mais le génie vient de la jeunesse, toujours.
Oui, vous avez eu cette chance d'être porté vous-même jeune
Moi-même,
comme ça.
Moi-même, j'ai eu beaucoup de
et
chance
et c'est quelque chose que vous rendez...
Oui, que je rends maintenant. J'ai eu la chance à 20 ans de rencontrer... que ce soit tous les gens les plus importants de Picasso, en passant par les musiciens, Honegger, en passant par tous les peintres, Miro, enfin tous les grands écrivains, bien sûr, que j'ai rencontrés dans ma vie, les Cocteau, les Monterland, etc. Ben, j'ai connu des gens très extraordinaires à 20 ans.
Et puis, donc, on aura aussi un concert, un symphonique, la Symphonie Fantastique.
Oui, ça, c'est fait en classique, ça, c'est parce qu'il faut que j'incorpore le classique également, quoi qu'il y a, Aix-en-Provence ou près, etc. Mais enfin, on met du classique également, parce qu'il y a une clientèle pour cela.
Un hommage à Serge Gainsbourg, Cocteau, Guitry, chez Maxime,
c'est musical. La période de Cocteau surtout.
Oui, et puis vous parliez de la tolérance tout à l'heure, il y a Voltaire, de la tolérance à la raison, ce sont 15 petits textes.
Absolument, ça c'est très percutant.
Voilà, et puis la grande Claude Pietragala qui dansera sur scène
qui
ici.
Qui jouera en comédienne également, qui est assez étonnante, oui. Elle se raconte elle-même et elle voit tous les personnages. De la femme, c'est assez étonnant, j'ai
déjà... Ça s'appelle La Tentation d'Ève.
Voilà, exact. C'est très très beau, j'ai beaucoup aimé moi-même.
C'est la métamorphose de la femme.
Oui, de la femme, c'est tous ses caractères, sa vision. C'est le féminin, vraiment, dans la réalité telle qu'une femme peut le dire.
Est-ce que c'est ce spectacle qu'elle a joué, on comprendra ça à Paris...
Voilà, il y a très peu de temps, malheureusement, trois semaines.
À l'Espace Cardin, d'ailleurs.
Oui, mais il y a eu très peu de temps de durée, malheureusement, mais là, elle le reprend.
D'accord. Et puis, une pièce de théâtre, Il faut que je ne veux pas, et puis The Fairy Queen, encore.
Oui, vous voyez, il y a une distribution très différente d'un spectacle à l'autre. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens. En tout cas, Lacoste est un lieu culturel.
Oui, grâce à vous, et grâce à tous les gens qui
et
sont déjà venus.
Et les lieux qui s'y proposent très bien. Il y a quand même trois théâtres actuellement à Lacoste, donc selon l'importance et le sujet, on peut les disperser d'une manière très... les valoriser.
Est-ce que c'est le théâtre ou le concert qui vous procure en ce moment le plus d'émotions, de satisfaction?
Écoutez, moi, je ne vais pas différent. Je vais de la chansonnette à Palestrina, voyez-vous. Je vais de Bach au jazz. Je n'ai pas tellement de... la qualité, surtout, qui est importante. Et puis, tout doit exister. On ne peut pas s'arrêter au classique. Le classique est né moderne.
Bien sûr.
Il n'est pas né classique. Je pense que si Bach ou Mozart... Il vivait aujourd'hui, il jouerait avec des instruments différents.
Je crois que Jean-Michel Jarre est un grand ami.
Oui, un grand ami.
J'ai
beaucoup aidé il y a 40 ans, 50 ans, oui, au début de sa carrière. C'est moi qui avais passé son premier disque. D'ailleurs, il en est très reconnaissant. Quand il a fait son premier disque, j'ai passé à Imo aussi, qu'il a passé à la radio à l'époque. Et ça l'a beaucoup aidé, je veux dire. Mais il est à part entière un grand musicien. J'aimerais beaucoup le faire rentrer à l'Institut, comme contemporain. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il a du talent.
Voilà.
Quand même.
C'est le critère.
1 million de personnes en Chine, 1 million de personnes au Mexique.
C'est
impressionnant.
Une vie comparable à la vôtre, je trouve, dans
cette On se connaît, oui. J'ai cru en lui au début. C'était assez provoquant au départ. Et j'ai trouvé en lui une manière différente de jouer du bruit, du son.
Il faisait du son.
Tout est son et bruit, enfin, dans la musique. C'est ça, non? Que le violon, en passant par le piano, c'est du bruit. C'est un son.
On n'a pas parlé du tout de vos créations là en ce moment, du vêtement, de la mode, le musée,
moi,
vous avez quelque chose,
toujours.
Je sais que vous continuez, mais...
Oui, toujours. Mais c'est mon gagne-pain, c'est mon sandwich.
Le musée de Saint-Ouen...
Oui, je crois que c'est le plus grand musée d'art, de mode du monde.
Qui abrite toute votre collection.
Oui, d'une personnalité, j'entends, oui, de A à Z, depuis tout de même 65 ans de création que j'ai réunie en tant que vêtements, bijoux, accessoires, tout ce que j'ai créé, hein, même des casseroles, des couteaux, je trouve que tout est
les
art.
Les objets
tout
sont
est
là.
Art, oui.
Toutes
les créations, en réalité.
Votre passion.
Et c'est un gros
design.
Succès. D'ailleurs, j'ai un musée 1900 également chez Maxime. Là, alors, c'est tout le 1900.
Et le prochain défilé, disons, des collections
Je l'ai présenté au Kremlin, là, il y a 2 mois, et à Galuga, donc le centre, disons, spatial également en Russie.
Alors oui, ça c'est très intéressant parce c'était que vous vous êtes plongé dans l'aventure du cosmos. Voilà. Vous avez été là
j'ai
où
j'ai coupé le ruban du musée.
Le musée qui
50 ans, j'ai coupé le ruban il y a 2 mois.
Un musée qui a Galouga, qui est près de Moscou, à 150 km, c'est vous ça. Disiez
ils
tout à l'heure.
Ils ont décidé que c'était Pierre Camin qui devait représenter le monde d'aujourd'hui, en fait, de la période où l'homme allait sur la Lune. Oui, ça a été très touchant. Bon, très... j'en ai coupé le ruban, c'était très émouvant.
Voilà. Les Russes vous aiment beaucoup, entre
oui.
Tchernobyl.
Oui, des relations diplomatiques et culturelles avec les Russes, les Américains et d'autres pays encore. Je crois que ce village, Lacoste, peut revenir ce qu'il était avant-guerre d'ailleurs, mais de continuer la tradition et en même temps faire un lieu où tous les artistes peuvent se retrouver.
Votre souhait le plus cher ?
C'est mon souhait en tout cas. C'est pas que je veux laisser une trace, mais une réunion du peuple, c'est ça la tolérance, ce que j'appelle la tolérance, dont je suis ambassadeur.
Merci Pierre Cardin.
Voilà, merci.